machinale qu'on fait une demi-heure, ben peut-être une heure par semaine pour ceux qui ont l'habitude de peut-être ouvrir, prendre un temps de louange, d'adoration à la maison. C'est pas quelque chose que je peux venir en attitude de consommateur. La louange, c'est pas quelque chose que je peux consommer. Je peux pas être un spectateur. D'ailleurs, un spectateur et adorateur, c'est deux termes qui vont totalement à l'opposé l'un de l'autre, là. Darlene Check, qui était une des leaders principales du groupe Hillsong, il y a plusieurs années, disait que la louange et l'adoration sont actives, non passives. C'est une décision du cœur, de la pensée, de notre volonté d'entrer dans ses parvis et sa présence. Nous n'adorons pas pour nous sentir bien. L'adoration déclare le règne puissant de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est tellement vrai ce matin. On n'est pas là pour nous, on est là pour lui. On est appelé à rendre gloire à Dieu en lui offrant nos vies entières, corps, âme, esprit. Ça veut dire qu'on est appelé à l'adorer avec nos pensées, avec nos attitudes, avec nos actions, avec nos chants, avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a. On est appelé à l'adorer. Comme le psaume 98 nous le dit, l'adoration, c'est une expression intense de notre reconnaissance envers Dieu. À quand remonte la dernière fois que j'ai pris un temps, là, un pas de recul dans ma vie, juste regarder ma famille, regarder ma maison, puis dire merci Seigneur pour eux. Merci pour eux. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour tout ce que tu m'accordes. C'est quand la dernière fois qu'une prière de reconnaissance est montée dans mon cœur, c'est inarrêtable. Seigneur, les émotions sont là. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. À quand remonte le dernier moment où j'ai exprimé ma louange tout seul, comme quelqu'un un petit peu fou, là, tout seul à la maison, en train de chanter des louanges, tout seul pour louer Dieu, glorifier Dieu, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. C'est quand la dernière fois que j'ai vécu ces moments intenses dans la présence de Dieu. Peut-être que ça fait longtemps, peut-être que c'était hier pour toi. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller plus loin dans notre adoration. On est appelé à adorer et exprimer notre adoration, notre amour, notre reconnaissance envers lui de plusieurs manières. Puis on va juste regarder dans un passage de l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 7, qui prend place lors de la dédicace du temple de Salomon, qui a été établi, qui a été fait sur plusieurs générations. C'était le plan que Dieu avait mis sur le cœur de David et que Salomon a terminé. Et là, on est vraiment dans ce passage-là où le temple est terminé, le temple est bâti. Et là, on est là pour l'inaugurer quelque part, le présenter devant Dieu. Et tout le peuple est là pour adorer, pour célébrer, pour louer Dieu qui vient élire domicile dans cet endroit-là. 2 Chroniques 7, versets 1 à 7, on va lire ensemble. « Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pas entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Alors ils s'agenouillèrent, le visage contre terre, sur le pavé, et ils adorèrent, ils célébrèrent l'Éternel en disant, « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. Hey, ça fait du bétail cette affaire-là, là. C'est ainsi que le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Et les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les lévites, avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour célébrer l'Éternel en chantant. Et ils chantaient, oui, sa bonté dure éternellement. D'après le cantique que David leur avait transmis, les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux, et tout Israël était là. Et Salomon consacra le milieu du parvis qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel en bronze qu'il avait fait ne pouvait contenir les holocaustes et les offrandes et les graisses. La première raison de louer Dieu qu'on retrouve dans ce passage ce matin, c'est que nous sommes appelés à adorer, c'est ce que la Bible nous enseigne, en se prosternant devant Dieu. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple, et ils s'agenouillèrent le visage contre terre. S'agenouiller, c'est se placer volontairement en position d'humilité, en position inférieure. C'est déclarer à Dieu qu'il est au-dessus de moi. C'est littéralement décider et réaliser que Dieu est plus grand, que Dieu est au-dessus. Reconnaître son règne sur ma vie. C'est littéralement prendre avec humilité ma place d'adorateur et rendre à Dieu sa place, celle qui lui revient, la place de maître, la place de roi. C'est notre premier acte d'adoration réside dans cette position, dans cette posture-là. Dans le fait de reconnaître ma position fragile, ma fragilité devant celle d'un Dieu illimité et éternel. C.S. Lewis, qui était théologien et philosophe, disait que l'humilité, ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser un peu moins à soi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on mélange des fois. On se rejette, Non, l'humilité, c'est pas penser moins, c'est pas penser qu'on est mauvais ou pas bon. Non, c'est probablement vrai. Face à Dieu, c'est totalement vrai. Mais l'humilité, la vraie humilité, c'est de penser moins à moi et de laisser la place à Dieu, celle qui lui revient. C'est impossible d'être un vrai adorateur sans faire preuve d'humilité, afin de laisser à Dieu la place qui lui revient. Devant Dieu, chacun d'entre nous, on est appelé à développer cette attitude de cœur, celle qu'on retrouve lorsque Jean-Baptiste disait dans Jean 3, versets 28 à 30, vous êtes mes témoins, vous-même mes témoins que j'ai dit en parlant lui, lui parlait de Jésus là. Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui est là, qui a la mariée, c'est le marié. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux dans certaines versions. Mais l'ami du marié, de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi, donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Et voici ce que Jean disait. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Quelle preuve d'humilité. C'est ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à adorer en nous prosternant devant Dieu. Amen. 2 Chroniques 7, verset 3. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant, « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » On est appelé à adorer en se prosternant, mais on est aussi appelé à adorer à travers notre reconnaissance envers lui par des prières de reconnaissance, d'adoration. La prière, ce n'est pas juste le temps où on défile à toute vitesse notre liste de besoins, de commissions spirituelles, où « Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça. » Non, non. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est se mettre dans une posture où viens avoir un dialogue avec Dieu, où je laisse Dieu me parler, où je parle à Dieu, mais où je lui présente mes actions de grâce. On est appelé à élever des prières de reconnaissance, d'action de grâce envers Dieu. C'est tellement facile de passer tout droit, sans s'arrêter pour rendre grâce. On prie pour Dieu, pour que Dieu agisse. On prie pour que le Seigneur agisse dans nos vies. À chaque dimanche, l'équipe de prière se retrouve et énumère les requêtes de prière qui sont nommées à toutes les semaines par les membres de l'Église, mais les gens de l'extérieur aussi qui nous demandent. Et on prie pour ça. Mais tellement de fois, moi, j'aimerais vous rappeler, quand Dieu agit dans ta vie, donne-nous un témoignage. On veut aussi lancer des actions de grâce au Seigneur. On veut voir notre foi être encouragée, multipliée par ce que Dieu fait dans nos vies. On va tellement vite dans notre quotidien qu'on a tendance à oublier de rendre grâce. 1 Thessaloniciens 5, au verset 18, l'apôtre Paul va dire « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Pourquoi c'est tellement important d'être reconnaissant, de s'arrêter puis rendre grâce en tout devant Dieu? Pourquoi c'est si important? J'ai beaucoup réfléchi, moi, dans mes premières années de vie chrétienne. Puis en lisant le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on remarque à chaque fois la raison pourquoi c'est si important d'être reconnaissant. Premièrement, parce que Dieu le mérite. Hein. Mais la deuxième chose, très très importante, c'est parce qu'alors que moi je fais l'effort d'être reconnaissant, ma foi grandit. Ça m'oblige à aller... parce que dans les temps difficiles, alors que je regarde en arrière, quelqu'un tantôt en arrière priait en disant « Merci Seigneur, parce que quand je regarde dans mon rétroviseur, je t'ai vu agir. Mais quand je regarde en avant, je sais que tu vas continuer d'agir. » C'est exactement pour ça qu'on est appelé à être reconnaissant. Appelé à aller chercher, énumérer, se remémorer les choses que Dieu a fait dans le passé. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre dans le passé. Et je rappelle à mon âme, alors que je suis reconnaissant, qu'il agira encore, parce que Dieu est toujours le même. Il agit éternellement de la même manière. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à qui il est. Je suis appelé à venir devant le Seigneur avec des prières de reconnaissance. Et c'est vital pour moi. Parce que quand je suis reconnaissant, mon âme se souvient que tout dans ma vie dépend entièrement de lui. Tout dans ma vie dépend de sa grâce. Littéralement. 2 Chroniques 7, verset 4. Alors le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Et le roi Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis en sacrifice. On adore dans cette posture de reconnaissance sur nos genoux, en s'agenouillant devant Dieu, avec des prières de reconnaissance. Mais on est aussi appelé à adorer avec le fruit de notre labeur. Ça, c'est le bout un petit peu plus... Je vous ai dit que j'allais prêcher sur la reconnaissance. Ouais, être généreux, ça fait partie de la vie du chrétien. Ça fait partie littéralement de mon adoration. Puis c'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Je ne l'invente pas, hein. Moi je suis juste le porte-parole. Je fais juste répéter ce qu'on m'a demandé de dire là. Vous savez? Être généreux fait partie de mon adoration envers Dieu. C'est dans la Bible. Et dans ce passage de 2 Chroniques, c'est un exemple flagrant. Ce n'est pas juste une invention humaine. C'est un acte d'adoration véritable qu'on retrouve à travers toute la parole dès le commencement. Genèse 14, versets 19 à 20, alors qu'Abraham a eu une victoire incroyable à ce moment-là. Et on va lire le passage, verset 17, lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedor-Léomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi Melchizédek. Et le roi de Salem, qui est roi de Salem, pardon, fit apporter du vin, du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré entre tes mains Abraham, qui a livré. Excusez-moi, je reviens verset 20. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, la réponse d'Abraham, alors que le roi Melchizedek, qui est une préfiguration de l'Éternel, qui se présente à lui, puis qui arrive à lui pour le bénir, la réponse logique, normale d'Abraham, c'est de lui donner la dîme de tout. C'est ce que le texte nous dit. Et il lui donna la dîme de tout, en reconnaissance, le fruit de son labeur, le fruit de ce qu'il avait acquis. Je suis appelé à donner généreusement parce que mes dons sont l'expression concrète, visible de mon adoration, de ma reconnaissance, de mon amour envers Dieu, pour sa grâce, pour son action, pour sa provision sur ma vie. Par ma générosité, je reconnais que tout ce que j'ai provient de sa bonté pour moi, de sa grâce pour moi. Par mes dons, j'exprime ma foi dans le fait qu'il pourvoira encore. J'ai confiance en lui. Et je sais que si je lui donne quelque chose, il va continuer de prendre soin de moi. Je sais que plusieurs d'entre vous, là, vos vertèbres se sont resserrées depuis qu'on est rentré dans ce point-là. Là. Tu peux te détendre, c'est correct. Ça va aller. Quelques points en rafale importants à propos de la générosité qui est prescrite dans la Bible. Mes dons se font avec libéralité, avec liberté, avec joie, sans obligation. Mes dons servent à tout ce qui contribue à la proclamation publique de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, mais aussi à soutenir ceux qui sont dans le besoin de toutes sortes de manières. Mes dons ne sont pas faits à une institution, mais à Dieu lui-même. Regardez-moi le premier. Quand je donne pas à l'Église, je donne à Dieu. Je donne à Dieu. C'est pour ça que c'est important de se joindre à une bonne Église, dont l'administration est sainement gérée, est bien fonctionnelle, dont la structure est totalement digne de confiance, transparente. C'est bien important. Mais je donne à Dieu, je ne donne pas à une institution. Je donne à Jésus quand je donne pour bénir son corps. C'est ce que la Bible m'appelle à faire. Par contre, donne pas. Puis là, attention, je vais avoir tout le conseil sur moi là. Donne pas si tu te sens contraint de donner. Donne pas si tu te sens obligé de le faire. Donne parce que tu veux adorer. Donne parce que tu reconnais l'action de Dieu dans ta vie. Donne parce que tu reconnais que c'est dans la parole puis que la parole nous invite à le faire. Donne pas si la direction... Peut-être que vous êtes en visite avec nous. Si la direction de ton église est un peu... Tu ne sais pas trop, ce n'est pas transparent, tu ne peux pas avoir de réponse à tes questions. Bien, prends peut-être un pas de réflexion. Mais donne uniquement si tu ne te sens pas contraint de le faire. Donne pas si c'est pour gagner quelque chose en retour. C'est tellement une mauvaise idée de faire ça. Tellement souvent, on a véhiculé cette idée, tu donnes, puis Dieu va te bénir. Oui, Dieu va te bénir au centuple, mais ce n'est pas parce que tu donnes 200 pièces que tu vas recevoir une Ferrari en retour. Là. Regarde, moi, à un moment donné, dans mes premières années de ministère, on avait un photocopieur qui nous coûtait une fortune, puis un représentant est arrivé de l'extérieur pour représenter son entreprise, que je ne vais pas nommer, puis il me dit, vous avez besoin de la nouvelle Rolls-Royce. Ça, je vais vous la présenter, on va augmenter votre contrat, on va le prolonger, puis je vais vous donner la Rolls-Royce. Puis moi, je lui ai juste répondu, regarde, moi, là, en tant que pasteur, je crois fondamentalement que la mission prime sur le confort. Je ne veux pas une Rolls-Royce, je veux une Écho qui roule vite. Donne-moi une Écho, je n'ai pas besoin d'une Rolls-Royce. Puis Dieu fonctionne de la même manière, il va toujours te donner ce dont tu as besoin. Il ne va pas te donner ce que tu veux nécessairement. La même chose avec nos enfants, hein. Mes enfants pourraient me réclamer des bonbons à toutes les fois, là. Mais ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Eux, ils ont besoin d'une alimentation saine, une alimentation équilibrée. Fait que Dieu nous donne ce dont on a besoin et il le fait, il pourvoit à toutes les fois. Il ne va pas nécessairement nous couvrir de bénédictions incroyables, telle une Ferrari qui nous tombe du ciel. Là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes appelés à adorer avec le fruit de notre labeur. Bien important. Adorer avec le fruit de mon labeur, c'est un challenge pour chacun d'entre nous. On va poursuivre. 2 Chroniques 7, verset 6. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre. On va mettre en pratique ce message. Les prêtres se tenaient à leur poste, ainsi que les lévites, avec les instruments fabriqués en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour célébrer l'Éternel en chantant « Oui, sa bonté dure éternellement », d'après le cantique que David leur avait transmis. Et les prêtres sonnaient de la trompette en face d'eux. Tout Israël était là. On est appelé à aussi adorer en élevant nos voix avec des chants de célébration. C'est ce qu'on fait ce matin, c'est ce qu'on fait à tous les dimanches. 1 Chronique 13 au verset 8, David et tout Israël, tout le peuple au complet, dans son ensemble, dansaient de toute leur force devant Dieu en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. C'était la célébration devant Dieu et tout le peuple était là conduit par le roi. On ne fait pas un karaoké le dimanche matin. Écoutez, j'ai tout entendu moi dans l'église. Hein, moi, puis j'aime ça, je trouve ça le fun. Je sais que parmi nous, il y en a qui ne chantent pas parce que vous n'aimez pas ça. Puis c'est bien correct, c'est tout à fait correct. Tu sais, ça se peut. Ça se peut que tu n'aimes pas ça, que ça te rende mal à l'aise. Ce n'est pas un karaoké le dimanche matin. On est là pour louer Dieu. Peut-être que tu es mal à l'aise parce que tu chantes faux. Si tu chantes faux ce matin, j'ai envie de te dire que ça n'a aucune espèce d'importance. Attends, attends. Attends, Joséane, ça va aller. N'aie crainte. Ça n'a aucune espèce de valeur tant que tu restes là. Parce que si on veut chanter un petit peu juste, c'est quand même fait pour les oreilles, il faut qu'il y ait quelqu'un qui chante juste devant un petit peu. Mais, ça a aucune... mon meilleur ami, j'espère qu'il ne va pas écouter ce message, mon meilleur ami d'adolescence, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, on allait dans une petite église, on était 80, puis on allait aux réunions de prière le mercredi soir, on était les deux seuls jeunes adultes à aller là. J'avais 17-18 ans à ce moment-là, je venais de me convertir. Puis lui est à côté de moi, une pièce d'homme, là, plus de 6 pieds, immense, il est grand, et il chante de tout son cœur. Toujours trois tons à côté de la tonalité normale. Toute la salle, on n'arrivait pas à chanter juste à cause de lui. Mais c'est correct, chanter, il louait Dieu, il célébrait Dieu de tout son cœur. Puis c'est ça qui est important. Les chants ne sont pas à propos de nous, ils sont à propos de lui. Ce n'est pas pour nous, c'est pour lui, c'est pour Dieu. Ces chants sont l'expression de notre adoration envers Dieu. C'est pour ça qu'on chante tous les dimanches, même quand on ne sait pas chanter, même quand on n'aime pas chanter. Même quand on n'a pas le goût de chanter. Parfois, tu vis des choses. Peut-être que c'est ce que tu vis actuellement. Des choses qui ne te donnent pas le goût de célébrer. Mais tu es appelé à le faire. Continue de chanter. Mais nous, on va continuer de faire des auditions. OK? Voilà. On est safe. Et je veux terminer avec ça. On est appelé à louer, à chanter, à prier, à donner, à célébrer. Mais à le faire avec exubérance. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pas le faire à l'intérieur seulement. De faire avec exubérance. C'est difficile pour nous les Occidentaux. On a de la misère, surtout les Occidentaux. Là, on a pas mal de misère avec ça, les Suisses, les Français, les Québécois. La joie intense peut se vivre uniquement à l'intérieur. Ça paraît pas. Mais je suis tellement béni quand je vois des gens qui viennent de l'étranger, d'ailleurs, de d'autres cultures, là, puis je vous vois louer, ça bouge. Puis là, tout à coup, tu vois les Blancs Occidentaux qui bougent un petit peu. Puis ah ouais, let's go! Let's go! Ce matin, on va louer. On va célébrer. On n'est pas appelé à baser nos vies sur les lignes que la culture ou la société nous donne, sur les tendances d'une culture. Ça, c'est ça qu'on fait en vie. On est très, 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 très carré, très structuré. On est appelé à baser nos vies sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous appelle à adorer avec exubérance. C'est pas un zoo, mais le faire dans la joie. Le faire dans un esprit de célébration, dans un esprit de reconnaissance. Peut-être que toi, tes cris de joie sont quand même très corrects. 10 décibels, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. 2 Chroniques 7:7. Salomon consacra le milieu du parvis qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. En effet, c'est là qu'il offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion parce que l'autel en bronze qu'il avait fait faire, il avait fait faire un autel en bronze pour faire les sacrifices, ne suffisait pas pour faire... Pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses, tellement c'était exubérant, tellement le peuple venait être craqué en adoration devant Dieu, en reconnaissance. Notre louange est littéralement l'expression de notre amour, de notre reconnaissance envers Dieu, pour qui il est et ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour moi. Je ne peux pas juste rester comme ça, timide. Donner sa vie pour moi, pour me sauver. Il a tout sacrifié, il a tout laissé. Moi, je t'appelais à l'adorer de tout mon cœur. Amen. C'est ce qu'on va faire ce matin. On ne peut pas être des calculateurs lorsqu'on vient adorer notre Dieu. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire? Si je donne, il va m'en manquer. Je vais le faire avec ça. Ou je donne, mais Seigneur, bénis-moi en retour. On ne peut pas être calculateur. Jésus a tout donné sans se limiter pour qu'on puisse vivre avec lui. Sans absolument rien manquer, et ça pour l'éternité, pas juste maintenant. Il est mon assurance. Il est mon roc, il est mon appui, il est ma forteresse, il est celui sur qui je peux compter dans n'importe quelle tempête. Il a tout donné. Dieu est digne de notre louange. Exubérante, extravagante, visible, bruyante, sincère, profonde, généreuse. J'ai une image qui apparaît à l'écran, là. Je suis tombé là-dessus il y a plusieurs années. Là. Je ne sais pas si on le voit bien. Je trouvais ça vraiment le fun. Pendant le temps d'adoration, j'ai l'impression de ressembler à ça. En réalité, c'est peut-être ça, nous. Mais on s'en fiche. C'est pas important. C'est pas important. On est appelé à être des adorateurs. Même quand tout semble aller de travers, même quand j'ai l'impression que les autres me regardent, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, restons structurés, c'est pas un zoo, on n'est pas des animaux. Respectons les autres. Mais soyons exubérants. Osons l'être. Ce matin, en tout cas. Osons l'être, ce matin, en tout cas. Soyons reconnaissants, parce que Dieu est fidèle. On est appelé non pas à choisir une manière qui nous convient pour adorer, on est appelé à adorer d'une manière biblique. Donc dans son ensemble, par des prières, par nos dons, par notre reconnaissance, par notre attitude d'humilité devant Dieu. Je m'humilie devant toi, je me prosterne devant toi, je m'abaisse devant toi. Seigneur, je prie que tu puisses nous conduire dans l'adoration ce matin, d'une manière qui t'honore, d'une manière biblique, d'une manière saine. Et bénis ton peuple. Seigneur, quel miracle! Alors que nous nous tournons vers toi, c'est ce que ta parole dit, pour te voir, pour regarder ta gloire, bien toi, tu reflètes sur nous, tu reluis sur nous, et tu passes dans les rangées, Seigneur, et tu nous remplis, et tu nous bénis. Tu n'as pas à le faire, mais tu le fais. Nous sommes reconnaissants encore plus ce matin pour ce que tu fais, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ?